c'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Et nous sommes présentes malgré ce qui a dit le journal. Nous n'avons pas peur de marcher aux côtés des jeunes punks, anarchistes, rappeurs, graffiteurs, rebelles, étudiants, rêveurs. Parce que vous êtes nos filles et nos fils.
On n'a pas mentionné les massacres que les soldats onusiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Nos garçons nous inquiètent sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, ma belle fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, on est mardi 27 septembre, 9h du matin, et c'est l'émission En bas à gauche qui commence. Au programme de l'émission cette semaine, en première partie de l'émission, on fait un retour sur la manifestation qui a eu lieu samedi dernier, 24 septembre. On vous présente ensuite l'Ampti Hebdo, donc les activités sociales et politiques de la semaine. En deuxième partie de l'émission, Louis-Philippe nous propose de parler du traitement médiatique des révoltes et ce sera suivi de la chronique des apatrides anonymes, donc pour parler d'actualité en immigration et en loi sécuritaire au Canada. Donc, on commence tout de suite avec un reportage audio réalisé par David Tolkien qui a été réalisé donc samedi dernier, 24 septembre, lors de la manifestation qui a eu lieu en après-midi devant les bureaux du premier ministre Charest. Donc, c'est une manifestation qui a circulé largement via les réseaux sociaux, les médias sociaux, pardon, dont Facebook, bien sûr, et où on pouvait lire que les citoyens étaient invités à exprimer leur ras-le-bol pour protester contre les coupures récentes, mais également pour réclamer une enquête publique sur la construction et sur la question de la corruption. Donc, on écoute le reportage audio de David Tolkien.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
Comment est-ce que vous avez appris de l'événement?
J'ai appris l'événement vraiment par Facebook aujourd'hui. Moi, je suis un militant, je travaille dans le milieu des organismes communautaires. Alors, comme j'ai beaucoup d'amis qui sont en lien avec différents mouvements, on a eu le mot comme ça à travers Facebook.
Et le message principal?
Le message principal, c'est que ça suffit la corruption, ça suffit l'évasion fiscale, ça suffit l'argent qui s'en va dans la poche de la mafia, alors qu'on coupe la santé, qu'on coupe l'éducation, qu'on double les frais de scolarité. Vraiment, on n'est plus capable de ce discours-là. Faut que le gouvernement fasse une enquête publique et surtout, faut arrêter d'envoyer l'argent dans les poches de ces gens-là.
Effectivement,
c'est inacceptable.
On apprend dans la même semaine qu'on coupe 500 millions de l'éducation et qu'il y a le contrat octroyé de cette envergure-là.
Tout à fait. On parle de milliards de dollars qui s'en vont dans les poches de gens que ça devrait vraiment pas. Alors, pour moi, la priorité, c'est que le gouvernement devrait faire son travail, c'est-à-dire de faire payer sa juste part à tout le monde, et il ne le fait plus. Il y a des gens qui sont extrêmement privilégiés au Québec qui ne payent pas leur part, et même pire que ça, le gouvernement est complice de fraude et d'évasion fiscale, et ça, il faut que ça cesse.
Oui, on a même révélé dernièrement que l'écart entre les riches et les pauvres, ça croît plus vite qu'aux États-Unis.
Tout à fait. Alors, on veut vraiment pas devenir comme les Américains. C'est pas un modèle à suivre. Alors, il faudrait pour ça avoir un gouvernement responsable, un gouvernement qui arrête la corruption. Et malheureusement, je crois pas que M. Charest soit en mesure de le faire. Je pense que ça va prendre un changement politique plus profond. Mais pour commencer, il faut que M. Charest s'en aille. Et c'est pour ça qu'il faut faut être dans la rue aujourd'hui. Il faut que ça continue.
Votre groupe communautaire, c'est?
Moi, je travaille pour le regroupement des organismes communautaires de la région de Montréal.
Notre indignation et notre colère face au gouvernement actuel. Quand je dis gouvernement actuel, je parle pas juste de celui qui est à Québec, je parle aussi de celui qui est à Ottawa, qui s'attaque à nos droits les plus fondamentaux. Aujourd'hui, il y a des travailleurs, des travailleuses, des gens de la classe moyenne qui ont de la misère à joindre les deux bouts, qui s'inquiètent pour leur retraite. Il y a des étudiants, des étudiantes, des parents également, qui s'indignent de la hausse des frais de scolarité. Il y a des personnes assistées sociales qu'on laisse dans la pauvreté puis dans la misère la plus abjecte. Il y a des chômeurs, des chômeuses qui s'inquiètent de l'avenir financier de leur famille. Il y a ici aujourd'hui des hommes, des femmes, des grands-parents, des familles qui ont décidé de dire qu'assez, c'est assez. Assez de cette corruption et de cette collusion qui nous coûte près de 4 milliards de dollars par année. Assez d'avions de guerre, ces F-35 qui vont nous coûter 30 milliards de dollars. Assez de ces partenariats publics-privés qui consistent à privatiser les profits aux mains de riches entrepreneurs et de socialiser les pertes financières que nous devons assumer. Assez aussi de ces dépassements de coûts qui sont devenus la norme. Assez de ces députés qui prétendent servir l'intérêt public et qui, dès que l'occasion se présente, s'en vont brader nos ressources naturelles aux grandes entreprises. D'ailleurs, assez de ces entreprises privées qui volent nos ressources naturelles, détruisent notre patrimoine et nos richesses collectives. On se lève aussi pour dire que c'est pas à nous de payer pour la crise économique qui a été causée par une élite financière qui veut toujours s'en mettre plus dans les poches et qui demeure toujours plus impunie. On se lève pour dire que nos ressources naturelles nous appartiennent et que c'est à nous, collectivement, de décider de ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, on se lève pour dire à Jean Charest et à ses petits amis que tout ça a assez duré.
Voici le Jean-Claude Tourneau de la CFN, mesdames et messieurs. Le mouvement syndical, c'est aussi des travailleuses, des travailleurs, des citoyens, des citoyennes qui vivent, qui subissent les politiques du gouvernement Charest. Et je vais vous dire, ça fait longtemps que la CSN réclame une commission d'enquête publique dans le secteur de la construction. On en représente des travailleurs, des travailleuses dans le secteur de la construction. Il y en a qui sont ici aujourd'hui, qui sont fiers de présenter leur couleur, parce qu'on n'a pas peur d'une commission d'enquête publique dans le secteur de la construction, parce qu'on pense que c'est nécessaire. On l'a dit tantôt, dans un contexte où on parle d'austérité, on parle de compression budgétaire, on demande aux travailleuses pour travailleurs de serrer la ceinture, on coupe dans les services de santé, on coupe dans l'éducation, on annonce le dégel des droits de scolarité pour les étudiants et les étudiantes, Et pendant ce temps-là, il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises qui profitent de la collusion, de la corruption, puis qui ont les deux mains dans l'assiette à beurre. Et ça, c'est inacceptable. Vous savez, le mouvement citoyen, les travailleuses, les travailleurs, monsieur, madame, tout le monde, ont le droit de savoir. Dans les prochaines années, le Québec va être appelé à prendre le chemin du développement économique puis du développement social. Hein? On va rénover des hôpitaux, on va construire des routes, on va rénover des ponts. Même Jean Charest parle du grand plan Nord et le vente en Chine. Ben, les citoyens et les citoyennes, ils veulent savoir à qui ça va profiter, ce développement-là. Ça va profiter à deux, trois personnes, à des entreprises, ou bien ça va profiter à la majorité de la population. Alors, si on veut s'assurer que c'est le bien commun et le bien public, puis que c'est les intérêts de la majorité de la population qui sont protégés, il faut faire la lumière sur ce qui se passe dans ce secteur de la construction, et ça prend une commission d'enquête publique. Je vais terminer en vous disant que dans les prochaines semaines, on va souhaiter qu'il y ait de plus en plus de citoyens et de citoyennes qui s'indignent. On est capable des fois de se mobiliser comme citoyens et citoyennes, puis de réclamer des équipes de hockey. Mais moi, je peux vous dire qu'on peut faire la démonstration aussi comme citoyens et citoyennes qu'on est capable de s'occuper de politique. Parce que si on s'occupe pas de politique, c'est les autres qui s'en occupent à notre place.
Badaboumdere, badaboumdera. Bada boum Charest, si t'en vas là-bas, plus fort!
Ça fait-tu longtemps qu'on veut quelque chose qui parle? Hein? Ça n'a pas de monde du bon sens. On a eu des conservateurs, on a eu des libéraux, on a eu le PQ, mais on est tous sur le cul actuellement, ça ne marche plus. Il faut trouver d'autres moyens pour engendrer une nouvelle conscience sociale politique. Mais il y en a quelque chose qui est arrivé. On ne veut pas des gens qui sont carriéristes en politique comme ailleurs. On veut des gens qui sont prêts à donner leur vie pour la patrie. Pas de bête. Il faut absolument qu'on trouve des moyens démocratiques. Et si ça ne marche pas, on faut prendre d'assaut. Ce qui nous revient de droit depuis tellement longtemps, on se fait fourrer, enculer dans des carrés. Où est-ce qu'il est, le Charest de merde, là? Faut débarquer ce chien-là. Il a fait plus de tort au Québec que le Duplessis. Il est là pour les corporations. Power Corporation. Il faut absolument aller dans la rue et pousser tellement fort qu'on ne pourra plus dire on revient en arrière. Pas juste le dire aujourd'hui, mais le dire à soir, le dire demain. Parler à nos enfants, nos gars, nos filles, qu'on veut protéger contre la corruption endémique, là. Debout comme on est aujourd'hui, debout demain, jusqu'à ce qu'on ait un pays, le Québec.
Alors voici donc Arnaud Thuria-Cloutier, représentant du mouvement étudiant. Arnaud Thuria-Cloutier, j'espère les bien dit.
L'Association pour une solidarité syndicale étudiante, la C, est très fière de participer aujourd'hui au mouvement du 24 septembre contre le gouvernement Charest. Il est clair que ce gouvernement, depuis son arrivée au pouvoir en 2003, constitue un ennemi majeur des étudiants et étudiantes. En 2005, il a tenté de couper dans les bourses en se cachant. Il a connu notre colère. Il a reculé face à la grève étudiante. On est capable de faire reculer le gouvernement. Aujourd'hui, le mouvement étudiant fait face à une attaque brutale. En 2017, si les plans du gouvernement sont appliqués, il faudra plus de 4 000 $ pour une seule année d'université. Pour la C, cette hausse, comme toutes les autres, est inacceptable. Les frais de scolarité ne sont rien de moins que de la violence économique. Il s'agit du contrôle sur les corps par le pouvoir de l'argent. 1 625 $ d'augmentation de plus, ça ne passe pas. Mais 10 $ de plus, ça ne passe pas non plus. On est ici pour dénoncer la corruption qui est depuis là, au Québec, depuis trop longtemps. Pour nous, la corruption est devenue quotidienne. Pour nous, il s'agit de la corruption néolibérale. En libérant le marché des pouvoirs publics, les néolibéraux ont ouvert la voie à la corruption et à la collusion. Lorsque l'État se retire, les intérêts privés se liguent contre les intérêts populaires. Qu'on doit serrer la ceinture, ça fait 15 ans qu'on me dit la même affaire.
Ça fait 15 ans qu'on accentue le problème. Il y en a de l'argent au Québec, on le sait. Il y en a de l'argent pour l'éducation et la santé, on sait où il est. Il est à Westmont, il est à Outremont, il est dans les paradis fiscaux, il est dans les entreprises gazières, les entreprises minières. Qu'on les taxe, qu'on leur mette des impôts une fois pour toutes. Charest n'est que le plus apparent représentant d'un système économique destructeur. Il nous faudra bien plus que sa démission pour contrer la barbarie économique du néolibéralisme. Dans les cégeps et les universités, la colère gronde. Une rumeur se fait sentir. Le fond de l'air est rouge. Après de nombreuses actions, la mobilisation étudiante de cet automne culminera avec une grande manifestation nationale à laquelle vous êtes tous et toutes invités. Car la lutte du mouvement étudiant, ce n'est pas une lutte strictement étudiante, c'est la lutte pour l'ensemble de la société. L'éducation, c'est pour tous et toutes. Alors que la logique néolibérale fait de nous des individus isolés en lutte les uns contre les autres pour l'existence, nous en appelons à la solidarité. Ensemble, bloquons la hausse. Ensemble, bloquons Charest et le néolibéralisme. Ensemble, faisons la grève générale.
On ne les traite pas de mafieux, on les traite de vassaux inféodés.
Ce qui veut dire?
Ce qui veut dire qu'ils sont, un, inféodés aux décisions que prend leur chef, d'abord. Deuxièmement, malheureusement, ils sont inféodés à certains intérêts financiers rapaces qui ne sont pas seulement les intérêts de l'ensemble du peuple. Donc, c'est d'abord à ça qu'ils sont fait inféodés. Et deuxièmement, aux intérêts du parti politique et ce qu'on comprend de plus en plus, aux intérêts d'amis du parti ou des financiers du parti. C'est la loi du silence, c'est la loi du parti au détriment de la loi du peuple. Je déplore qu'on soit pas 100 000 aujourd'hui, mais oui, certainement, ça. J'espère que, comme vous dites, ça va s'aggraver, parce que effectivement, les choses sont graves au Québec. Oui. Pour moi, c'est pas tant le chiffre qu'on rassemble aujourd'hui, mais comme vous dites, c'est le fait qu'en si peu de temps, on peut rassembler 5 ou 10 000 personnes, c'est surtout ça. Et puis, c'est aussi de faire que ça fasse boule de neige, que ça se fasse un effet d'entraînement.
Et des gens en colère, on peut dire.
Oui, les gens sont en colère. J'espère qu'ils sont en colère. Il faut être en colère.
Tant de combats à mener, tant de causes à défendre, tant d'êtres abandonnés, d'exclus à faire entendre, tant de débats dans l'air, tant de paroles au vent, ne pouvant plus se taire, ils ont pris les devants. Ils fondent leur monde sur les ondes, libre en écho, les quatre coins de la terre. Ils font vivre leur radio en témoins solidaires. Tant de musique délaissée, de culture à défendre, de textes muselés qui ne sont pas à vendre. Tant d'artistes en galère, faute d'être dans le vent, ont trouvé solitaire une station ouvrant ses ondes à leur vision du monde. Libre en écho, les quatre coins de la terre, ils font vivre leur radio en témoins solidaires. Quatre coins de la terre, ils font vivre leur radio en témoins solidaires. Tant de terres saccagées, tant d'espèces à défendre, d'amour à propager, de gestes à réapprendre, tant de gens en colère sur tous les continents, remuant ciel et terre contre marées et vents. Ils fondent, réveille le monde, les ondes, libre en écho, les quatre coins de la terre, ils font vivre leur radio en témoins solidaires, libre en écho des quatre coins de la terre. Ils font vivre leur radio en témoin solidaire.
C'est le temps du calendrier militant. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Mercredi le 28 septembre, c'est le début des cours à l'Université populaire de Montréal. Donc le mercredi soir, des ateliers sur des outils pour penser et lutter, entrer dans le monde du féminisme. Donc par un tour d'horizon de ses principaux concepts et courants de pensée, le corpus féministe sera présenté de manière non traditionnelle et joviale. Les concepts abordés comprennent identité de genre versus identité de sexe, oppression, patriarcat, sexisme, intersectionnalité, intervention féministe par et pour et appropriation. La petite histoire d'un grand mouvement, ce cours présentera la genèse du mouvement féministe avec le début du 20e siècle comme point de départ. Quelles furent les luttes, les revendications, les victoires, les combats du mouvement féministe? Quels sont les groupes et militants et militantes principales qui ont contribué à ces luttes? Donc, pour plus d'informations, vous pouvez consulter le plan de session pour connaître toutes les dates. Pour plus d'informations, www.upopmontréal. Donc, les séances dont je vous parlais sur le féminisme auront lieu au Bar Populaire, 6584 Saint-Laurent, les mercredis à 19h. Également, jeudi le 29 septembre, pour contrer le torticolis médiatique ambiant, Vidéo Distorsion vous propose un traitement choc de quelques torsion, contorsion et distorsion audiovisuelle curative. Donc, Vidéo Distorsion est une soirée de projection, de vidéos d'intérêt public et de débats éclectiques nés d'initiatives de jeunes cinéastes indépendants. Ce rassemblement depuis plus d'un an pour concocter un mélange explosif à saveur d'actualité. Des films d'ici et d'ailleurs sur les luttes et les résistances sociales. Donc ce mois-ci, le mouvement des sans-terres au Brésil, la présence des compagnies minières canadiennes en Amérique latine, la résistance des Premières Nations à Kanisataki, le féminisme au Forum social mondial, témoignage d'une réfugiée colombienne en Équateur et plusieurs autres. Donc également, en fin de soirée, la performance, une fois encore, de mise en demeure. Donc pour participer à cette projection, ce sera à l'Alizé, au 900 Ontario Est, Montréal, à 20h. Et c'est demandé une contribution de 5 $. Ensuite, vendredi le 30 septembre, Justice pour les femmes autochtones disparues et assassinées par Mining Justice et le Centre 2110. Donc, Andrea Smith, une conférence sur les liens entre la violence systémique à l'endroit des femmes autochtones et les luttes territoriales des Premières Nations. Donc, Andrea Lee Smith est une intellectuelle Cherokee féministe et militante anti-violence. Son travail porte principalement sur les questions liées à la violence faite aux femmes de couleur et à leur communauté et aux femmes autochtones en particulier. Donc, Smith est également la cofondatrice de Inside, un organisme de base d'envergure nationale qui prône l'action directe et le dialogue critique dans le but de documenter tous les abus commis dans les pensionnats autochtones afin que les communautés soient en mesure de guérir et de demander justice. Donc, cette conférence aura lieu le vendredi 30 septembre de 18h30 à 20h30 au local H110 Université Concordia, le Hall Building, au 1455 de Maisonneuve-Ouest. Donc, il y a un service de garde, une traduction chuchotée vers le français et cet événement est gratuit. Donc, pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur www.missingjustice.ca ou www.centre2110.org. Samedi, le 1 octobre, bâtir une cité sans frontières, journée de discussion et de partage de stratégies sur l'accès aux services de base pour les personnes sans statut. Donc, cette journée de discussion est organisée par Solidarité sans frontières dans le but de mettre en commun nos stratégies d'accès aux services de base, soins de santé, écoles, banques alimentaires, etc. pour les immigrants et immigrantes sans statut. Nous invitons les militants et militantes, les organisateurs, organisatrices communautaires, les travailleurs et travailleuses de la santé, les professeurs et toutes les personnes intéressées par le sujet à participer à cet événement visant à renforcer nos liens de solidarité et d'entraide. Pour des milliers de migrants, migrantes sans papier à travers le pays, les villes comme Montréal, Toronto et Vancouver sont de véritables ateliers de misère. L'économie canadienne ne peut pas se passer de cette main-d'œuvre qui vit pourtant dans la menace constante de déportation. C'est Les sans-papiers, ce sont nos voisins, nos collègues, nos camarades de classe. Ce sont des personnes dont le seul crime prétendu a été d'émigrer en quête d'une vie meilleure pour elles-mêmes et leurs proches. Trop souvent, les sans-papiers n'ont pas accès aux services essentiels tels que les hôpitaux, les cliniques, les écoles et les banques alimentaires. Quand ils n'osent pas se rendre dans ces endroits de peur que leur statut ne soit dévoilé aux autorités. Donc, l'événement aura lieu le samedi 1er octobre 2011 de 9h à 17h au pavillon Hall de l'Université Concordia, 7e étage. Encore une fois, 1455 boulevard de Maisonneuve-Ouest, métro Guy-Concordia. Si vous voulez plus d'informations sur l'horaire de la journée, vous pouvez aller au www.solidaritésansfrontières.org ou écrire à solidaritésansfrontières@gmail.com pour confirmer votre présence et demander la traduction de votre choix entre anglais, français et espagnol. Également, c'est gratuit. Donc, plus il y aura de gens, plus ce sera intéressant. Finalement, dimanche le 2 octobre, les pauvres prennent la Bastille, manif action pour le droit au logement et contre la gentrification. Donc, 10 ans après les squats Overdale et Préfontaine. Le 27 juillet 2001, en pleine crise du logement, une manifestation de 700 personnes militantes anticapitalistes, itinérants, itinérantes, intervenants, intervenantes, communautaires et révoltés de tout genre se dirigeait d'un pas décidé vers le centre-ville de Montréal afin d'appuyer l'ouverture d'un squat politique. L'occupation de l'édifice Overdale dura 6 jours. Les médias prirent d'assaut l'événement et des centaines de personnes étaient en permanence sur place. Après d'âpres négociations, le maire, alors en poste, Pierre Bouc, accorda aux squatteurs l'autorisation d'occuper un autre édifice abandonné appartenant à la ville. Le centre Préfontaine, l'aventure dura jusqu'au 3 octobre. Donc, c'est suite à ça que, cette année, une manifestation pour fêter les 10 ans du squat, des squats Overdale et Préfontaine aura lieu, donc, le dimanche 2 octobre au Carré Saint-Louis à 12h et le départ de la manifestation sera à 13h. Également, l'événement se continuera jusqu'au lendemain, le 3 octobre. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire au cse.mtl.centre@gmail.com.
Passa scampagnando per tu ledo, botte ne guapo per te fa guardar. Tu fa l'americano, americano, americano, sienta medico fa fa. Tu vive alla moda, ma se bevi whisky e soda, o te sente disturba. Tu ballo rock and roll, tu gioca baseball. Ma è sorte del camel, chi te li dà la mosera di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma se la limita lì, senta me non ci sta niente, ma ok napoletan, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Come te può capire chi te vuol bene? Se tu le parla mezza americana, quando se fa l'amore sotto la luna, come deve in capo di I love you, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta medico fa fa.
À vendre, un Bluetooth, des soins pour le visage, des oreillers et plus. Venez voir ce qu'on vous offre sur la page Facebook de Radio Centre-Ville. Tous des articles neufs. Combien voulez-vous payer? Faites une offre sur la page Facebook de Radio Centre-Ville.
Global Montréal et la Fondation Fabienne Cola vous invitent au 7e Festival international du film Black de Montréal du 22 septembre au 2 octobre. Venez découvrir la culture noire des quatre coins du globe à travers les plus grands films Black. 125 films palpitants, 80 premières, 35 pays. Admission, $10 par film. Carte ciné accès de 10 films, $70. Ou encore, carte ciné film illimitée, $100. Du 22 septembre au 2 octobre au cinéma du Parc, à l'Impérial et à l'ONF. MontréalBlackFilm.com.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété.
Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer.
Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous écoutez la deuxième partie de l'émission En bas à gauche. Et dans cette deuxième partie de l'émission, nous vous parlons du traitement médiatique des révoltes, donc un entretien préparé par un nouveau chroniqueur d'En bas à gauche, Louis-Philippe. Et ce sera suivi de la capsule des apatrides anonymes, donc pour les politiques en immigration et tout ce qui touche les politiques dites de sécurité nationale.
Que de donde son, que de donde son, que son de la barricada, y de donde son, que de donde son, que son de la barricada, y de donde son, que de donde son, que son de la barricada.
En bas à gauche.
Aujourd'hui, je suis avec Jean-Sébastien Delorme.
Bonjour, LP.
Bonjour. On va traiter aujourd'hui des médias, du rôle des médias.
Plus précisément, dans le rôle des révoltes.
Dans le rôle des révoltes, évidemment. Puis, à titre d'introduction, je vais présenter deux cas spécifiques qui sont divergents d'une certaine manière.
Mais tous très intéressants, hein?
Le 15 mai dernier, en Espagne, il y a un mouvement populaire qui a vraiment émergé.
Peut même dire explosé.
Explosé, oui, parce qu'il y a plusieurs milliers dans les rues en Espagne. L'FMI a qualifié ce mouvement de génération perdue. C'est une génération perdue au sens que, pour la première fois dans l'historicité de l'humanité, on se demande qu'adviendra-t-il de cette génération-là. En fait, si on regarde les sondages, le taux de chômage avoisinerait les 40% chez les 18 à 35 ans, ce qui est très considérable. C'est-à-dire que vous sortez d'un bac en sciences politiques, vous n'avez pas d'emploi. Donc, c'est problématique parce que, socialement, en fait, c'est en réponse à ça que les étudiants, notamment, mais venant de toutes les sphères sociales, sont sortis dans les rues sous le thème des manifestations qui « Nous ne sommes pas de la marchandise aux mains des politiciens et des banquiers ». Je trouve que ça représente très bien, en fait, la saveur, la nature de cette révolte populaire. Donc, en fait, le FMI, en termes de mesures d'austérité, proposait au gouvernement de couper drastiquement dans les services publics. Donc, en même temps, les réactions populaires sont en opposition à ça, parce que la crise, évidemment, on le sait, elle a été créée par les banquiers.
C'est sûrement pas de la faute des gens qui étaient dans la rue. Je pense qu'on peut dire ça.
On peut s'entendre comme ça. Donc, je crois qu'il est pertinent, justement, de le mentionner, que le mouvement Democracia Realia, une vraie démocratie maintenant, ça s'opposait vraiment au fondement même du capitalisme qui tend à vouloir se reproduire sur des bases qui sont complètement en train de se décomposer, si on peut dire. En fait, je voudrais faire un parallèle. Là, cette révolte populaire, elle n'a pas été tant médiatisée. T'es d'accord avec moi, Jean-Sébastien? Mais une révolte populaire qui a aussi été importante puis qu'on a mis complètement de côté, qualifiée de révolution silencieuse, c'est en Islande. En fait, en Islande, face à la crise économique de 2008, ça a été le premier pays qui a été principalement affecté au sens où la plus importante banque en Islande a fait faillite. Et le gouvernement et l'élite islandaise est venu à la rescousse de cette banque pour pas que le pays s'écroule. En réaction à ça, encore une fois, la population est sortie dans la rue pour dénoncer justement la relation très étroite entre les grands banquiers, les grands riches du pays et les gouvernements. À deux reprises, ils ont réussi à faire tomber le gouvernement. Quelle est la conclusion de ce de cette révolte? C'est que on n'en a pas entendu parler. Ça a été balayé de la main, parce qu'au sens que c'est quand même une réussite, puis pour ne pas créer de précédent et ne pour pas donner l'exemple à d'autres pays qui vivent la même
situation.
La même situation actuelle.
Je pense que le but de ces deux études de cas-là que tu nous as présentées très, très sommairement et rapidement, parce que ça reste quand même extrêmement compliqué comme ces mouvements-là. Par contre, la raison que je suis ici pour parler aujourd'hui, c'est pour parler du traitement médiatique des révoltes. Tu l'as déjà dit, l'Islande, l'Espagne, on peut parler de la Grèce, on peut parler du Chili, on peut parler cette semaine Wall Street, ce sont des révoltes sociales, grosse, moyenne, petite, peu importe, mais qu'on n'a pas entendu parler, presque jamais. Il faut dire qu'au Québec, en Occident, c'est des grandes corporations médiatiques. On parle, dans ma perspective matérialiste, qui voit la société comme étant faite de deux groupes, dont les riches et les pauvres, les grandes corporations qui sont contrôlées par des gens extrêmement riches, qui doivent nous donner à nous, à tous, les nouvelles du soir qu'on écoute à 5 heures à la télévision ou à la radio, n'avaient pas avantage à parler des révoltes qu'il y a eu en Occident. Par contre, pour ce qui est du Moyen-Orient, c'est facile à expliquer, c'est facile à remâcher de façon à consolider leur pouvoir à eux. Je m'explique, là-bas, c'était facile à identifier, le méchant était le dictateur, et le bon était le peuple qui voulait se démocratiser. OK, ces gens-là, le gouvernement, avec les grandes corporations, nous expliquent ça et nous le remarchent, nous le redisent à tous les jours depuis maintenant plusieurs années.
Fait que si je comprends bien, l'idée de, en fait, de parler beaucoup des révoltes au Moyen-Orient, c'est de dire que on veut amener à ce peuple-là une démocratie. C'est le discours qu'on entend des grands dirigeants occidentaux.
Exactement, oui. Et les grands dirigeants de corporations, de gouvernements, et ce qui est important de voir là-dedans, c'est que ça vient consolider leur emprise et leur discours qu'ils nous disent depuis longtemps. Comparativement aux révoltes qui ont lieu en Occident, qui remettent en question exactement le pouvoir même que ces gens-là ont. Ça fait en sorte que les grands médias ne peuvent plus nécessairement nous donner l'information d'une nouvelle façon pour consolider leur pouvoir en Occident. Donc, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils omettent d'en parler.
Comme tu as dit, tu as mentionné tantôt, on a parlé de Wall Street. Moi, c'est sûr que je me renseigne par moi-même dans les médias alternatifs, mais j'en ai pas entendu parler, je l'ai pas vu, puis c'est quand même considérable les gens qui sont descendus dans les rues.
On a une certaine liberté d'expression. La différence, c'est que cette liberté d'expression-là n'est pas aussi facilement accessible à tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que les grandes corporations médiatiques ont accaparé 90% de toute la diffusion, et plus probablement de toute la diffusion qui se fait à la masse, à tout le monde. Est-ce qu'ils contrôlent les médias? Est-ce qu'ils contrôlent la façon dont ils présentent l'information? Sûrement. Mais une chose qui est sûre, c'est que les médias de masse, eux, n'ont aucun intérêt à nous présenter ce qui se passe sur Wall Street actuellement. Ils n'ont aucun intérêt à nous dire que depuis le 19 septembre dernier, depuis 9 jours maintenant, il y a des gens qui campent sur Wall Street.
Mais justement, parlons-en. C'est que depuis le 17 septembre, il y a des gens qui ont appelé à une occupation de Wall Street. Je crois que je suis pas certain, mais est-ce que ça serait le groupe Anonymous où j'ai vu que c'était un groupe de Toronto? Ah, ouais, les In Rocks, qui c'est un groupe de Toronto qui ont justement lancé une initiative sur les réseaux sociaux. Et plusieurs autres groupes se sont liés à eux comme Anonymous. Donc là, ça fait 9 jours en fait qu'ils sont en train d'occuper la rue, le quartier des affaires de Wall Street à New York. Puis est-ce que tu voudrais en parler davantage, Sébastien?
Juste le fait que tu hésites un peu à nous dire qui est-ce qui avait vraiment lancé l'appel, ça venait de où, les chiffres qu'il y a sont controversés. J'invite tous les auditeurs, les auditrices à la maison à aller sur Internet, à aller s'informer, à aller voir ce qui se passe là-bas. c'est quand même un mouvement. C'est clair que ça n'a encore rien à voir avec ce que, loin de ce qu'on a vu au Moyen-Orient, ce qu'on a pu voir en Espagne ou dans plusieurs autres pays dans le monde. Oui, c'est ça. L'information est quand même extrêmement difficile à aller chercher. Est-ce que ça va grossir encore? Je vais revenir à ce que je disais depuis le début. Ça peut difficilement grossir si on n'en parle pas. Et c'est pour ça qu'on s'était dit cette fin de semaine qu'on était pour parler de ça aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Ça va pas dans le sens de l'intérêt des 1% les plus riches américains qui probablement contrôlent tous les médias américains. On le voit, là, c'est évident en ce moment avec CNN et le Tea Party. Ça couche dans le même lit, ça dit la même chose. Tu sais, c'est simple. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez simple à voir. Et ça nuit à notre possibilité de changer le monde et même la conception du monde dans lequel on le vit. Et pour faire un autre parallèle avec le Moyen-Orient, je pense qu'au Moyen-Orient, on parlait beaucoup des réseaux sociaux et de leur rôle dans la révolte. J'ai l'impression que les gens, là, je dis toujours que j'ai l'impression parce que, bon, j'ai pas vécu là-bas, j'ai pas une très, très grande expertise sur le sujet, mais j'ai l'impression que les gens là-bas, ils savaient déjà que les médias étaient extrêmement contrôlés par le pouvoir en place, qui était facilement identifiable, c'était le dictateur et ses amis. Donc, ils étaient habitués, ces gens-là, d'aller chercher de l'information de un et de l'autre et ne pas tout boire ce qu'on leur dit à la télé. Contrairement à nous, c'est tellement facile à nous, ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, de prendre l'information comme du cash, tu sais, comme l'expression nous dit, pour pas faire un mauvais jeu de mots, mais on a perdu cette idée-là de s'informer à plusieurs différents endroits.
Mm-hmm. Bon, ben écoute, je te remercie. Je pense que ça a fait un... C'est important d'en parler, justement, qu'à travers une radio communautaire qui, en fait, nous permet de nous exprimer, on a cet outil à la disponibilité, puis je pense que c'est vraiment essentiel qu'on l'utilise à bon escient. Puis, je te remercie d'être là, Jean-Sébastien.
Pour terminer, j'aimerais juste dire que ce que ça contribue à faire, ces médias-là qui nous crachent ce qu'ils veulent, finalement, ça contribue à ce que souvent, c'est un cynisme qu'on entend de la population de dire « Ouais, mais le système est trop gros. » De voir l'avenir comme une fatalité, ça fait en sorte que ça crée un cercle de vérité qui reproduit le système dans lequel on vit. Je pense que ça serait temps qu'on prenne une pause, qu'on accepte de voir ces mouvements-là comme étant potables, comme étant quelque chose qui peut nous mener à un meilleur système, qu'on décidera ensemble une fois qu'on aura accepté que le système dans lequel on vit est problématique.
Qui survit sur l'endettement? Qu'est-ce qui va venir sauver l'Europe si la Grèce s'effondre? Vraiment, si... C'est-à-dire que le pilier est tellement en train de craquer de partout que... Je pense pas que les États-Unis, qui est le pays le plus endetté au monde, va pouvoir venir pallier. Écoutez,
à voir,
mais on va le voir de notre vivant, nous qui
c'est dans certain. dans la génération perdue, dans la génération qui aura peut-être pas la chance de vivre le même luxe que nos parents ont vécu. Et je crois qu'on s'en va avec une chanson qui
oui, absolument,
qui explique un peu, qui exprime un peu ce qu'on essaie de vous dire en ce moment.
Je pense que Maria va ça lui tente de la présenter.
Oui, donc on poursuit avec Désobéissance civile de Kenny Arcana.
Merci beaucoup.
Merci.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissances sont tracées. Leur route sur nos libertés, ils ont juré cracher. Créer un entrave à la leur, à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Ils sont transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan puis que des avions se sont crachés. Toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Une fraîche, le blasphème et la vraie lumière se fait lécher. Tu tenais la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà.
la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper un fort.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous.
Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Une place, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
Donc, on est en présence d'un de nos trois apatrides anonymes préférés. Donc, Mathieu, bonjour. De quoi tu nous parles aujourd'hui?
Bonjour, Marie-Ève. Bonjour à tout le monde. Je vais parler, dans un premier temps, de tout le débat qui est actuellement, l'actualité sur la question d'immigration, qui peut être ici ou pas, les déportations, tout ça. Je vais parler un petit peu de... Un petit rappel sur les critères au niveau fédéral, provincial, et un petit peu c'est rendu quoi la réalité de l'immigration au Canada. Ce sera pas un tableau complet, évidemment, ça va être un résumé. Puis en deuxième temps, parler un petit peu de la déclaration qui était sortie publiquement la semaine passée de la claque contre la répression, le profilage politique. Sur l'immigration, c'est un peu à cause de ce qui s'est passé avec Paola Ortiz la semaine passée. Les gens, j'imagine, qui écoutent Sécurité en ont entendu parler en masse, même les médias mainstream en ont parlé, ce qui est assez rare quand même, parce que des cas de déportation, il y en a des milliers par année au Canada, au Québec, et puis on n'en parle à peu près pas. Là, on doit saluer Solidarité sans frontières et le comité de support à Paola Ortiz qui a fait une très bonne job pour faire connaître ce cas-là, le publiciser. C'est sûr qu'il était assez extrême. On parle ici en plus de violences conjugales, de violences sexuelles, donc les groupes de femmes ont appuyé. Donc ça a donné un bon coup de main pour publiciser ce cas-là. Mais malgré tout ça, elle a été déportée vendredi dernier, et évidemment le ministre fédéral, Jason Kenney, a refusé tout compromis là-dessus. Et ça représente un petit peu ce qu'on sait des conservateurs au niveau de leur politique en immigration et au niveau social en général. Mais faut dire qu'au Canada, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, les immigrants, migrantes qui rentrent ici sont de plus en plus sélectionnés sur des critères économiques, comme vous savez sans doute. Et à un point, où est-ce qu'on en est rendu, où sur 250 000 personnes qui sont acceptées comme immigrants, migrantes par année, qui deviennent éventuellement résidents permanents, éventuellement citoyens canadiens, sur les 250 000 au Canada, il y a seulement 22 000 qui sont sur des critères d'asile ou de refuge. Donc, c'est un chiffre très, très bas qui a beaucoup diminué depuis 20 ans. On a encore l'impression que le Canada est une terre d'accueil, terre d'asile pour plein de monde qui sont mal pris dans le monde à cause des guerres, de la famine, de leur situation économique très, très vulnérable, de violences de toutes sortes. Mais finalement, on accueille vraiment 10 000 personnes dites persécutées. C'est-à-dire, ça, c'est des blocs de personnes qu'on va accepter dans une entente de pays à pays. Par exemple, dans les dernières années, on a accepté des gens qui venaient de Bosnie, qui venaient d'Afghanistan, qui venaient de différents pays qui étaient vraiment dans des situations extrêmes, d'Irak aussi. Mais ça, c'est vraiment des blocs de personnes qu'on va accepter 2 000 d'un coup, 3 000 d'un coup pour un programme spécial. Donc, qui est accéléré, où les gens n'ont pas à passer par tout le processus habituel. Et des réfugiés en tant que tels qui font une demande de réfugiés politiques. La plupart du temps, il y en a seulement 12 000 au Canada par année qui sont acceptés. Donc, si on part du 250 000 personnes qui rentrent au Canada, on est à moins de 5 % de gens qui sont vraiment des réfugiés. Donc, il y en a qui le savent, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est encore beaucoup plus que ça. Il y a peut-être 30 ans, c'était au moins le tiers qui étaient des réfugiés. Mais là, on est rendu à moins 5 %, donc c'est quand même assez important comme changement dans la politique. Et avec les conservateurs, ça va être de plus en plus difficile. Cette semaine à l'émission aussi, j'ai parlé du projet de loi C4 qui va être réintroduit dans quelques semaines au Parlement, qui est le projet de loi dit sur les passeurs et les clandestins, qui va encore plus criminaliser les gens qui arrivent par des moyens dits illégaux et qui va encore plus restreindre le nombre de personnes réfugiées qui vont rentrer au Canada. Donc ça, c'est la réalité. Puis ce que je trouve dommage dans le débat qu'il y a eu sur Paola Ortiz, ou en tout cas, je dis un débat, mais c'est plus sur la médiatisation, c'est qu'on a parlé de son cas à elle, tout ça, mais les médias n'ont pas élargi sur la question des réfugiés. La question aussi pour les Mexicains depuis deux ans qui doivent avoir un visa, même si c'est un pays avec lequel on a un accord de libre-échange économique. Donc, c'est toute cette question-là qui a été un peu occultée. Et je ne sais pas si vous savez, mais actuellement, il y a une commission parlementaire québécoise qui siège sur la nouvelle politique de planification de l'immigration pour la période 2012-2015. Donc, on est en train de décider à Québec, donc les députés en commission parlementaire reçoivent des mémoires et des gens depuis quelques semaines pour décider combien d'immigrants et quels immigrants vont arriver au Québec dans les prochaines années. On doit savoir que le Québec a une semi-autonomie en matière d'immigration. C'est le fédéral qui a le dernier mot, on l'a vu dans le cas de Paola Ortiz, mais près le Québec en reçoit à peu près 50 000, qui vient des 250 000 du Canada, mais a quand même un droit de regard sur certaines choses. Mais quand on lit les critères de la politique du Québec, politique de sélection, c'est à peu près les mêmes critères qu'au fédéral, et c'est la même emphase sur la question économique. Donc, on parle ici des catégories au Québec, vous allez voir, travailleurs permanents, gens d'affaires, travailleurs temporaires, ça c'est plus connu au niveau des travailleurs migrants, étudiants étrangers, parrains, parraines, et réfugiés et autres clientèles, qui est la sixième partie des gens qui sont acceptés ici, qui est encore une fois le plus petit nombre. Donc, si on part de 22 000 au Canada, dont 12 000 de réfugiés, on parle au Québec à peu près de 2 000, 2 500 par année. Donc, sur les 50 000 qui vont être acceptés par année. Donc, de 2012 à 2015, on va réduire de 55 000 à 50 000 le nombre d'immigrants migrants qui vont rentrer au Québec. 55 000, c'est le chiffre de l'année passée. Et depuis 2-3 ans, ça diminue. C'était 60 000 il y a 3 ans. Donc, c'est ça. Puis, quand on regarde la politique fédérale, comme je vous dis, c'est assez semblable, mais là, j'ai été poussé un peu plus loin pour voir les différentes catégories. On parle de... Ben, au fédéral, comme au Québec, il y a un système de pointage. Donc, les gens doivent répondre à un certain nombre de points pour être acceptés comme immigrants. Donc, on parle ici de pointage objectif, évidemment, et que si les gens n'ont pas le nombre de points minimum, qui est 67, sont refusés, sinon sont acceptés. Et les points, facteur intéressant, ça s'applique seulement pour les travailleurs qualifiés et les parents aidés. Tout ce qui est entrepreneur, investisseur, il n'y a pas de pointage. C'est selon des critères objectifs, comme le nombre d'argent que tu as dans ton compte en banque. Donc, c'est assez intéressant. On parle d'entrepreneur, on parle que la personne doit créer une entreprise d'au moins 2 employés et avoir un actif minimum de 300 000 $ Et les investisseurs n'ont pas à investir en particulier. Ils doivent avoir dans leur compte de banque 800 000 $ canadiens au moins. Donc, ça, c'est deux catégories où il n'y a pas de pointage. C'est automatiquement accepté. Travailleur autonome qui apporte une contribution à la vie culturelle, sportive ou artistique. Ça, c'est aussi, il n'y a pas de pointage. Ça, c'est des gens qui sont connus dans leur milieu ou reconnus, qui ont une certaine expertise. Les parents aidés et les travailleurs qualifiés doivent avoir 67 points. Et les points, au Canada, on parle de la scolarité 25 points, l'expérience 25 points, l'âge, puis là on ne précise pas, mais il faut être dans la bonne catégorie d'âge au moment où est-ce que la demande est faite, c'est 10 points. Langue, français ou anglais, c'est 20 points, un ou l'autre ou les deux. Et professions qui sont ciblées, un autre 10 points. Et adaptabilité, qui dans le fond sont des gens qui sont déjà venus au Canada, qui ont déjà étudié ou travaillé, ou ils ont déjà de la famille ici, ont un autre 10 points. Donc, les gens qui veulent avoir le statut de travailleur qualifié ou de parent aidé, c'est 67 points sur 100 là-dessus qu'ils doivent avoir. Donc, ça vous donne un peu une idée. Puis au Québec, c'est un petit peu la même approche. Et comme je vous disais, ben, actuellement, c'est ça, il y a cette commission parlementaire-là qui va décider éventuellement avec un projet de loi là, des nouvelles cibles de planification de l'immigration. Et on risque de garder à peu près les mêmes critères et les mêmes catégories d'emploi, parce que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a entendu parler de cette commission-là parlementaire, parce qu'il y a eu le Conseil du statut de la femme qui a fait un mémoire en disant que le processus était sexiste, c'est-à-dire que la plupart des gens qui demandent une demande sont des hommes, parce que souvent les métiers qui sont demandés, c'est des métiers majoritairement masculins, autant ici que dans les pays d'origine. Et le pointage de la conjointe compte pour seulement 13% du total. Donc, c'est vraiment la principale personne qui demande, donc souvent l'homme, qui a 87% des points, puis 13% la conjointe. Donc, je suis dans des chiffres, j'espère que je ne perds pas trop les gens. Fait qu'on a entendu parler de cette commission-là à cause de la sortie du Conseil du statut de la femme, et j'ai fouillé un peu, puis même la table de concertation des réfugiés immigrants de Montréal ont fait un communiqué à partir de leur mémoire, puis ils parlent surtout de francisation et d'intégration économique des immigrants, mais ils ne parlent pas du tout de la question des réfugiés, des sans-statut, des gens qui sont en situation illégale ici au Canada. Donc, tout le monde reste un peu, même dans les groupes communautaires qui travaillent là-dedans, sur la question économique. Donc, on prend des gens qualifiés, on prend des gens qui sont bienvenus ici parce qu'ils vont apporter de quoi à l'économie canadienne et ne seront pas, à l'inverse, un boulet, entre guillemets, pour l'économie canadienne. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire un peu sur cette question-là. Mon autre sujet, si vous me permettez, peut-être pour plus une info, parce que ça aussi, ça a été un peu, pas ça aussi, contrairement à l'autre nouvelle, ça a été un peu occulté par les médias. La semaine passée, il y avait la deuxième comparution déjà arrêtée le 1er mai anticapitaliste dernier, 4 personnes reliées au Parti communiste révolutionnaire, au PCR. Et c'était une comparution assez simple, c'était un pro forma, mais il y a eu une déclaration qui a été lancée par l'initiative de la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes avec le PCR, pour encore une fois dénoncer le profilage politique, la répression politique dont est victime beaucoup de monde, d'individus et de groupes militants à Montréal. Montréal. Donc, une pétition qui est quand même, pas une pétition, mais une déclaration qui a été signée par beaucoup de groupes à la fois de la gauche plus radicale. On peut nommer le Comité des sans-emploi dont vous avez parlé, ou COBP, ou vous avez parlé de Solidarité sans frontières, sont là-dedans aussi, mais aussi des groupes plus communautaires, des comités logements, des groupes de femmes, et aussi quelques individus qui avaient été ciblés au niveau universitaire. Mais ça pour dire qu'on a, il y a eu un point de presse le mardi matin avant la comparution des gens au palais de justice. Pas beaucoup de médias sont venus, contrairement à la date qu'il y avait eu au mois de juillet, quand les quatre personnes avaient été arrêtées. Ils ont eu leur première comparution pour leur plaidoirie, puis surtout leurs conditions qui leur ont été imposées. Et là, les médias ont fait une bonne couverture. Bon, c'était l'été, c'était nouveau. Gamma était un peu nouveau dans l'air, le fameux Gamma, donc gay des activités et des mouvements anarchistes et marginaux. Je vais leur dire comme il faut là. Si je le trouve, non, je le trouve pas. Non. Enfin, c'est cet acronyme-là pour cette escouade spéciale qui relève du crime organisé à Montréal. Mais ça pour dire que ça, il y avait eu une meilleure couverture au mois de juillet. Et là, ben, quelques mois plus tard, ça tombe un peu dans l'oubli. Même s'il y a eu deux arrestations de plus à l'AC depuis le mois de juillet. Depuis, il y a eu la conférence de presse de l'AC aussi. Depuis, il y a eu leur comparution. Donc, ils sont rendus à 6 arrêtés. Des gens quand même assez qui ont souvent des postes d'exécutants, des postes dans les assos étudiantes. Et par rapport au 1er mai, comme par rapport à l'AC, la police promet d'autres arrestations avec Gamma ou pas, dépendamment, parce que Gamma, il y a une espèce de flou là-dessus. La police prétend que c'est un projet, tandis que d'autres disent que c'est une escouade en bonne et due forme qui est là pour rester. Donc, ça pour dire que dans ce contexte-là, puis c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'il y a des arrestations politiques à Montréal, soit dans les manifestations, soit après, soit avant, dépendamment des événements. Mais c'est sûr que cette escouade-là, qui cible précisément les militants plus, dits plus radicaux, mais même qui touche quand même l'AC, qui est un groupe étudiant, une association étudiante, c'est sûr que c'est très inquiétant dans ce contexte où est-ce que il y a de plus en plus de contestations sociales avec les coupures et les mesures d'austérité. Il va y avoir de plus en plus de contestations. Donc, c'est vraiment la police qui fait le travail de l'État et main dans la main pour empêcher les gens de s'exprimer, de s'organiser. Donc, si ça vous intéresse, claquemontréal.net pour lire la déclaration, pour voir les groupes qui ont appuyé et suivre ce qui se passe dans le merveilleux monde du milieu radical à Montréal.
Bien, merci Mathieu, c'était la chronique des apatrides anonymes et c'est ce qui met fin à cette émission En bas à gauche, l'édition du 27 septembre. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain, 9h, bien sûr sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. D'ici là, nous vous invitons à visiter notre site web, donc à En bas à gauche wordpress.com, donc en bas à gauche .wordpress.com. Vous pourrez réécouter toutes nos émissions ainsi que télécharger des capsules audio, des entrevues. Vous pouvez les diffuser, les réutiliser et vous pouvez bien sûr nous laisser des commentaires ou nous envoyer des articles. Nous cherchons en ce moment des collaboratrices, collaborateurs. Donc, si vous avez des chroniques, des entrevues à proposer, n'hésitez pas à nous contacter, soit en contactant Radio Centre-Ville, soit en allant sur le site web en bas à gauche, .wordpress.com. Sur ce, bonne semaine!
Nos engañaron. A través de todos estos años, con sucias promesas de alcanzar perdaños, se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, una fuga de capitales, tales males mentales, no sabes cuánto vale.
Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com.
L'intensif solde annuel de France B Pronuptia est en cours. Profitez-en dès maintenant. France B Pronuptia, les spécialistes en robe de mariée et robe du soir. Intensif, ce solde 50% et plus, seulement une fois par année. Profitez-en à la boutique France B Pronuptia au 6832 rue Saint-Hubert. Exceptionnellement ouvert les dimanches 25 septembre et 2 octobre. Les robes de mariée et robe du soir en solde intensif. Profitez-en, c'est seulement jusqu'au 2 octobre. Boutique France B Pronuptia, 6832 rue Saint-Hubert. Reggae dawn, I bring back the people freedom.
L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Vous avez une soif inaltérable de savoir ? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102,3 FM et sur le câble au 88,3.